Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Solène Robin.
Bonjour, besoin de prendre l'air, de voir du pays, assez du déjà vu, des destinations de toute banalité. Vous êtes prêts? Suivez le guide. Jean-Didier Vincent vous invite au plus incongru des périples, mais c'est sans doute celui qui vous en apprendra le plus sur vous-même. Venez donc faire un voyage extraordinaire au centre du cerveau. C'est le titre du dernier ouvrage de Jean-Didier Vincent paru chez Odile Jacob à l'automne 2007. Mais tout voyage se prépare. J'ai donc convié à ma table, si je puis dire ainsi, Jean-Didier Vincent pour nous aider dans nos préparatifs. Bienvenue dans nos studios, monsieur Vincent.
Eh bien, je suis ravi d'être accueilli par vous, une voix qui est déjà familière aux oreilles des académiciens.
Je remercie. Alors, est-ce que vous acceptez la mission que je vous propose?
De vous faire visiter le cerveau?
De nous préparer à ce voyage.
De vous préparer. Enfin, déjà, moi j'ai toujours aimé les guides de voyage parce que, en général, je n'aime pas conduire, je me mets à côté de celle ou celui qui conduit et je lis les guides. En voyage, j'ai toujours des guides, j'adore ça, la lecture des guides. Le Bay d'Équerre, c'est ma Bible. Les guides bleus à l'ancienne, c'est aussi des livres que je lis constamment. Et ça me fait voyager, déjà même pendant le voyage. Donc, j'ai fait ça pour... on m'avait demandé de faire un guide du cerveau avec les adresses pour aller se faire soigner sur les maladies, etc., comme on a fait dans des bonnes maisons d'édition. Alors, j'ai essayé de tourner ce qui me paraissait horriblement ennuyeux en faisant un vrai guide de voyage, un voyage intérieur, bien sûr, mais un voyage à l'intérieur du cerveau.
C'est un vrai guide vert du cerveau. Et vous l'écrivez au début de votre ouvrage, je vous cite, « Comme tous les sites touristiques, le cerveau attire les escrocs, les charlatans, tous les gourous douteux, exploiteurs sans scrupules, la crédulité du promeneur égaré. » Alors, on compte bien sur vos conseils pour ne pas s'égarer en chemin.
Oui, parce que dans tout voyage, j'aime bien voyager seul ou j'aimais bien voyager seul, mais on rencontre très vite des compagnons d'occasion ou des compagnes. De toute façon, on n'est jamais totalement seul dans un voyage. On va seul en voyage pour rencontrer des gens, comme on dit, faire des connaissances, rencontrer les gens du pays. Mais néanmoins, souvent, on part en voyage à deux, ou voyage quelquefois organisé. Là, je ne vous invite pas à un voyage organisé. Je vous inviterais plutôt, si j'avais le choix, un voyage à deux. Ce serait... avec vous, probablement un plaisir, mais avec les lecteurs qui apprécient mon humour un peu particulier, je souhaite que ce soit...
omniprésent, je le souligne.
Que ce soit un voyage avec une complicité. Donc, je recommande les compagnons de voyage, bien sûr. Quand on est seul, vous savez, on peut partir avec des livres... Et puis après, c'est les meilleurs. On peut voyager avec soi-même, je l'ai dit, mais il y a ensuite les guides. Alors je fais les guides professionnels, les guides officiels. Je fais tout un tableau. C'est l'occasion pour moi de faire un portrait de ceux qui prétendent connaître le cerveau, qui prétendent tout au moins soigner les maladies du cerveau, c'est-à-dire en fin de compte les maladies de l'âme ou les maladies neurologiques. Alors il y a donc les neurologues, il y a les psychiatres. Les neurologues et les psychiatres, c'était la même boutique autrefois, mais ils se sont séparés en 68. Les uns s'occupent du cerveau.
Mais attendez, vous
du cerveau avec des trous et d'autres.
Vous passez les étapes. Là, oui, c'est plus un voyage organisé, c'est un week-end court. Là.
C'est un week-end court. Mais enfin, quand même, pour vous situer le problème, c'est vrai qu'il y a, vous avez situé tout de suite les charlatans, les escrocs, mais entre les deux, entre les deux, je ne suis pas charitable, mais il y a, disons, les psychologues qui ne sont pas médecins. Il vaut mieux prendre un médecin, à mon avis, c'est quand même mieux, quoi, pour visiter le cerveau. Mais il y a les psychanalystes d'un côté, les psychothérapeutes, toutes les écoles de psychologie, je les passe un peu en revue, qui prétendent soigner les malades. Et puis c'est vrai qu'il y a les véritables charlatans.
Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail un petit peu après, mais si vous le permettez, avant de nous plonger dans le neurone et les circuits synaptiques, nous allons parler un petit peu de vous et rappeler qui est Jean-Didier Vincent. Alors, pour le grand public, Jean-Didier Vincent, c'est l'auteur de La biologie des passions, votre premier ouvrage destiné au grand public paru en 86, La chair et le diable paru en 96, ou plus récemment, Le cœur des autres, biologie de la compassion paru en 2003. Jean-Didier Vincent écrit avec une plume acérée, parfois acerbe, mais avant tout, Jean-Didier Vincent, élu à l'Académie des sciences le 18 novembre 2003, membre de l'Académie nationale de médecine depuis 2001 et de l'American Academy of Arts and Sciences, c'est un scientifique. Jean-Didier Vincent rêvait de faire normal sup et poursuivre une carrière littéraire, mais la vie s'en mêlant et il est devenu médecin, neuropsychiatre de formation. Il a ensuite évolué vers des activités de recherche. Il est aujourd'hui considéré comme un pionnier de la neuro-endocrinologie, c'est-à-dire la science qui étudie les interactions entre hormones et systèmes nerveux. Il enseigne la physiologie à la faculté de médecine de l'Université Paris 11 et a dirigé l'Institut de neurobiologie Alfred Fessard de 1991 à 2004. Il préside également le Conseil national des programmes au ministère de l'Éducation nationale depuis 2002. Littéraire un peu contrarié mais talentueux écrivain, le sillon qu'il suivait devait évidemment ramener notre invité à l'écriture. Depuis une vingtaine d'années, Jean-Didier Vincent transmet ses connaissances scientifiques dans des ouvrages dédiés au grand public, un public un peu averti tout de même, nous allons en parler. Alors cet ouvrage en particulier, d'où vous en est venue l'idée ? Vous me disiez tout à l'heure qu'on vous l'avait suggéré.
Oui, vous savez, alors là, je ressemble vraiment à tous les écrivains. Je suis soucieux de vendre des livres et on ne résiste jamais à des avances.
Je vous interromps, vous vous sentez plutôt scientifique ou écrivain aujourd'hui ?
Les deux, mon capitaine. Je pense que si on n'est pas écrivain, un peu, écriveur, disons. Peut-être pas écrivain, mais écriveur. Vous savez, c'est Audiberti qui différenciait les écrivains, les écrivains et les écriveurs. Les écriveurs, il y en a beaucoup. Ce sont des gens qui écrivaillent, qui écriveurs, enfin, qui alignent des lignes, si je puis dire.
Oui, vous ne faites pas qu'aligner des lignes quand même.
Non,
vous avez
moi, je
un
me
style...
considère un peu comme à la charnière de l'écrivain et de l'écrivain. Je suis un scientifique écrivant, mais qui écrit, qui prétend écrire, savoir écrire. Et puis, je suis quelquefois, par certains moments, je m'oublie un peu et je fais œuvre littéraire.
On sent bien que vous prenez beaucoup de plaisir.
Plus le temps passe, plus j'éprouve ce besoin. Vous voyez, quand j'ai eu fini Biologie des passions, où je suis rentré dans un moule qui me colle à la peau définitivement, c'est-à-dire que je suis l'auteur de Biologie des passions, qui était le premier ouvrage d'Odile Jacob et qui a été un vrai best-seller. Depuis, j'ai des gens qui me connaissent un peu de mal à l'oublier, mais j'ai mis un point d'honneur dès que j'ai eu ce pied à l'étrier de l'écriture, surtout d'être accepté par un éditeur, et ça, je ne serai jamais assez rendre grâce à Odile Jacob, qui m'a fait écrire finalement, parce que c'était une commande, ça aussi déjà. Et tout de suite, je me suis précipité sur mes auteurs de prédilection, qui n'étaient pas des scientifiques, mais c'était Casanova, pour le premier, qui a été un peu l'homme de ma vie pendant certains temps.
Vous évoquez beaucoup les philosophes, les poètes, Verlaine.
Je suis un homme du 18e. J'ai cette prétention, mais c'est quelquefois une prétention excessive. Mais Casanova était pour moi un maître à penser, ça fait sourire, parce que pour être un maître à aimer, je ne pense pas que c'est ce qui fait le mieux, mais c'est surtout ses mémoires, c'est un des chefs-d'œuvre. On oublie que Casanova était un écrivain français et ses mémoires sont écrites en français, l'histoire de sa vie, et c'est un chef-d'œuvre absolu de l'autobiographie. J'ai fait un livre sur lui.
Alors là, on revient sur cet ouvrage sur le cerveau, puisque c'est le plus récent. Alors ce livre, il est dense, mais on peut l'appréhender par petits bouts. D'ailleurs, vous invitez les lecteurs à prendre l'ouvrage dans l'ordre qui l'intéresse et par rapport aux questions qu'il peut se poser. Mais vous parvenez quand même en 500 pages à nous dire l'essentiel sur le cerveau, que ce soit par l'historique ou tous les gestes du quotidien que l'on peut faire et qui appellent aux fonctions cérébrales. Le pari était quand même audacieux. Vous avez dû beaucoup élaguer, ou finalement, cette synthèse, elle s'est faite d'elle-même.
Non, parce que je ne suis pas seulement quelqu'un qui écrit sur le cerveau et sur la biologie. J'ai quand même un corps de doctrine, une théorie. Pour moi, c'est l'affect qui prime sur l'action. Et donc, la part la plus importante du cerveau, en ce qui me concerne, à étudier, est probablement la plus intéressante, parce que c'est elle qui donne finalement vie à ce que j'appelle l'âme. C'est-à-dire, j'ose parler de l'âme, ce que les neurobiologistes réductionnistes n'acceptent
Alors,
pas.
Alors, vous le dites, l'âme se situe dans le cerveau. C'est le cerveau qui a gagné la lutte.
C'est pas le cœur, c'est effectivement le cerveau, dans la mesure où ce cerveau est l'expression du corps. Épicure dit que c'est le cri de la chair qui s'exprime dans l'âme, et que l'âme est dans, on le sait aujourd'hui, c'est le cerveau qui répercute dans l'action, dans les comportements, dans ce que nous faisons, nous autres sujets. C'est le cerveau qui élabore la subjectivité, présence au monde.
Vous l'expliquez aussi, cerveau et corps sont finalement intrinsèquement liés, on ne peut pas les
séparer. Si vous mettez un cerveau sur la table, il ne représente rien. Si vous mettez un corps sans cerveau, il ne représente rien non plus. Mais de la même façon, si vous mettez un cerveau et un corps dans l'absence d'un environnement, d'un monde qui appartient au sujet, eh bien, vous n'avez rien non plus. Donc, c'est des interrelations entre ce qu'on appelle l'environnement, moi j'appelle ça l'espace extracorporel, le corps, et puis le temps qui devient si important pour l'humain, qui est ce cerveau de l'homme fabrique du temps, dont l'animal, même les singes depuis évolués ne sont pas capables. Ils ont une perception de la durée, mais ils n'ont pas la notion de leur propre histoire, de leur roman. Ils n'ont pas ce roman des origines qui caractérise l'homme, qui a une histoire, qui à partir d'un certain moment, construit au fur et à mesure son futur, son avenir, sur le passé qu'il continue, non pas à ressasser, mais qui lui donne son identité. Donc, ce que je montre surtout, c'est que cette construction du cerveau qui commence chez le fœtus, dans l'utérus de la mère, va se poursuivre non seulement pendant la période où le cerveau n'est pas fini sur le plan des éléments qui le composent, jusqu'après, dans le cours de votre vie, votre cerveau bouge tout le temps, il y a ce qu'on appelle la plasticité, et il bouge essentiellement parce que ce cerveau est exposé à un monde qui change, un monde qui va agresser le cerveau, qui va agresser le sujet, et un corps qui est toujours soumis aux influences du monde, aux fluctuations de ce fameux état central fluctuant qui est mon concept de base.
Alors, je vous pose juste une petite question qui reste sur l'écriture de cet ouvrage avant de rentrer plus sur la question du cerveau elle-même. Combien de temps pour écrire un ouvrage comme celui-ci ?
C'est peut-être relativement moins de temps, parce que j'ai pris de l'aise, si vous voulez. Ce n'est pas par rapport à un livre comme Biologie des passions qui m'avait pris beaucoup de temps, parce qu'il fallait faire une recherche, une compilation, diraient certains, de toutes les données sur un sujet. Là, je me différencie de mes collègues neurobiologistes qui écrivent des traités du cerveau. Il y en a d'excellents dont je me suis inspiré, que j'ai quasiment presque retranscrit en les simplifiant dans certaines parties de mon ouvrage, pour les sujets dont je ne suis pas spécialiste. Mais j'ai pris de la distance, donc je cherche à expliquer plus que je sais, plus que je crois, plus que je comprends du cerveau, et transmettre cette compréhension qui est déjà le produit de ma vie. C'est toute ma vie, et dans mes idées du cerveau, ma relation au monde, ma relation aux autres, la compassion, toutes ces fonctions sur lesquelles j'insiste, c'est le produit de mon existence. Et dès lors, j'ai pas besoin de tous les articles. C'est-à-dire que sur certains sujets, c'est très up-to-date, mais vous savez, aujourd'hui, la science est redondante. Hein. Vous avez un papier dans Science on va en parler pendant 6 mois, et puis dans 6 mois après, il est oublié. Et puis souvent, quand l'un a dit quelque chose, les autres suivent. Donc, vous pouvez très vite vous mettre à jour dans les principaux domaines de la science. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'avoir oublié quelque chose, d'avoir peur de ne pas tout dire, comme si j'écrivais un vrai traité à l'usage de mes pairs ou à l'usage des scientifiques. C'est vraiment destiné aux voyageurs. Donc voyageur, il faut qu'il puisse... Bien sûr, quand vous voyez dans le guide bleu la description des peintures de Saint-Savin ou le portail de Saint-Seurin, par exemple, vous avez des descriptions archéologiques un peu, vous le trouvez dans les guides bleus ou dans le Baedeker. On vous donne des faits un peu scientifiques, d'histoire de l'art, etc. Mais Vous n'êtes pas obligé de tout croire, de tout absorber. Vous n'avez pas besoin vous-même d'être spécialiste. Alors, c'est ce que je fais.
En termes relatifs, à peu près combien de temps entre
si
le
moment... Vous voulez absolument savoir le temps. Oui. Il y a tout le temps où on prépare dans sa tête.
Entre
où
le
on
moment
accumule.
Où l'idée est née et le moment où...
Il y a le moment où on accumule. Ça fait 3 ans. 3 ans, le temps de voir qu'on va faire ça, de signer le contrat. Et ça va loin. Et puis après, vous mettez de côté quelques articles de base... Et puis, vous voyez un peu progressivement, vous partez par un chapitre, et puis progressivement, vous donnez l'architecture générale de l'ouvrage, vous lui donnez une orientation. Vous savez qu'on est passé par la cave pour finir dans le grenier, vous voyez, ou pour prendre. On a commencé par les vallées, les rivières, pour finir par les montagnes. L'esprit étant bien entendu dans les montagnes, c'est-à-dire dans le cortex. Donc, je manie la métaphore. Plus
avec
que
aisance.
Les faits, oui, mais plus que les faits scientifiques. Donc, vous voyez, c'est ça. Alors
parfois,
après, ça prend
même,
2 ans.
Parfois, d'ailleurs, même vous dites vous-même que vous vous emportez et vous laissez
oui,
aller à la verve.
Je me laisse aller, sinon il n'y aura plus de plaisir d'écriture. S'il n'y a pas de plaisir d'écriture, l'autre ne comprendra pas. Donc, c'est pour ça que ce livre a un peu de succès maintenant, parce que les gens qui le feuillettent avec ces merveilleuses illustrations qui sont comme une sorte de réplique, parce que c'est François Durkheim était déjà mon illustrateur pour Boulanger des Passions, et il y a une vraie complicité entre nous. Donc, je lui dis ce que je veux faire, ce que je veux écrire, et puis vous voyez, il y a le diable tire-bouchon sur l'alcoolisme, il y a le avec Freud et Jouvet.
On a une géographie de la planète aussi.
Ah oui, c'est très joli.
Le cerveau devient
un continent.
Le cerveau
comme une carte du premier navigateur. Oui, il a vraiment interprété très très bien. Il y a de très belles images dans ce livre.
On va rentrer tout de suite dans ce voyage. Vous commencez votre ouvrage, on en a parlé juste avant cette émission, par un chapitre entier dédié à l'anatomie du cerveau. Alors je suppose que c'est un préalable nécessaire pour qui veut bien comprendre la suite. Et puis on l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais le contenu est tout de même ardu pour le néophyte du cerveau.
Bien sûr.
Est-ce que vous ne craignez pas de le perdre en chemin, même si vous suggérez au lecteur impatient de passer directement à la
suite ?
Écoutez,
qu'est-ce que vous penseriez d'un guide de voyage s'il n'y avait pas de plan de la ville que vous avez ou les cartes du pays que vous allez visiter ? Donc c'est bien la moindre des choses. Quand je vais vous parler, j'utilise le moins de jargon possible, j'utilise le moins de lieux, de géographie, etc. Mais quand vous parlez de l'hypothalamus, autant savoir où il est placé. C'est pas plus difficile de savoir que Notre-Dame est au centre de Paris sur une île ou que le Sacré-Cœur est sur une petite colline au nord de Paris.
Comme vous le dites,
c'est ça, quoi.
Comme vous le dites vous-même, le cerveau, c'est un véritable continent.
Ou un village, selon vos
comprendre pour le néophyte l'anatomie complète du cerveau.
Ne serait-ce que pour voir la complexité de l'anatomie du cerveau, il faut en donner une description grossière. Alors là, les anatomistes, c'est dessiné à la plume. J'ai fait, dans la mesure du possible, l'impasse, mais une impasse volontaire sur les images qu'on vous donne aujourd'hui, qui sont très belles, que vous en trouvez dans le dernier livre de Stanislas Dehaene, qui sont des images en résonance magnétique fonctionnelle ou en PET scan, qui vous permettent de voir l'anatomie du cerveau maintenant avec les... Notamment, vous pouvez reconstituer les voies nerveuses avec l'eau qu'on suit, dont on suit les mouvements avec la résonance magnétique nucléaire, le long des fibres. Vous avez tout ça, c'est très joli, si ce n'est que c'est, à mon avis, c'est un peu fastidieux pour le non-spécialiste. C'est jaune, c'est vert, c'est bleu, alors que le cerveau, il n'est pas jaune, il n'est pas vert, il n'est pas bleu. Vous voyez, il vaut mieux mettre des dessins faits à la plume, comme les anatomistes à partir de Vézal ont fait, quoi. Je veux dire que c'est pas... Et ça me paraît plus explicite.
Cela dit, ça donne quand même... Enfin, ça permet quand même de voir pour le néophyte la complexité. Parce qu'on est face à un organisme qui est tellement multiple.
Quand je vais parler des aires corticales, il y a 4-5 pages, de dizaines de planches. Vous allez voir où c'est, quoi. Alors moi, quand je fais des conférences, j'amène toujours un cerveau en plastique.
Oui, un cerveau que vous comparez à un gros fruit rosâtre au reflet de nacre.
Oui, c'est ça, oui.
Et alors, vous faites une description assez éloquente, juste avant, en disant, pour découvrir le cerveau, il suffit d'enlever la calotte crânienne après l'avoir découpée à la scie et aussi décoller les portions de l'os qui adhèrent à la membrane fibreuse enveloppant l'organe.
Mais oui, mais vous savez, il y a quelques serial killers qui adorent le cerveau. Il y en a
j'imagine bien, mais c'est vrai qu'expliquer...
Hannibal le cannibale, par exemple, il fait ça pour le ministre de l'Intérieur des États-Unis dans son dernier livre.
C'est vrai qu'expliquer comme ça...
Vous y êtes
Ah oui, on y est, ça. Ouais. On a l'impression de se retrouver à la boucherie, quelque part.
Ben oui, mais vous regardez, quand vous mangez de la cervelle, vous verrez ce cervelet tout de suite, si vous savez ce que c'est. Il est derrière, il est strié très fin. Vous voyez les lobes cérébelleux, vous voyez le vermis, et puis vous pouvez voir les airs. Une cervelle de lapin, c'est pas un gros cortex, mais c'est bon. Et alors, une cervelle d'agneau, si vous allez en Chine, vous aurez des cervelles de singe, mais qui est très proche. Mais après, quand vous coupez ça en tranches, vous voyez très bien l'organisation du cerveau. Mais il a fallu attendre, Vézal, il a fallu attendre les premiers anatomistes autorisés à travailler sur le cadavre au XVIe siècle.
Vous avez conscience que l'homme préfère quand même un peu déshumaniser son organisme.
Mais il regarde le cœur avec complaisance. Ils disent mon cœur bat, tout ça. Bon, le cœur, c'est jamais qu'un organe d'exécution, d'ordre qui vient du cerveau. Vous comprenez, quand vous êtes ému, c'est votre cœur qui bat. Mais en réalité, c'est le cerveau qui envoie la commande. Hein. C'est pas le cœur. Le cœur, c'est un muscle qui est relativement impassible, qui suit soit une rythmicité automatique, soit un effort du corps. Il s'adapte. Et la commande passe toujours par le cerveau.
Justement, ce qui crée un affect chez les gens, c'est que les gens ont conscience que les commandes passent au cerveau.
Je vous accorde que les amoureux, quand ils veulent marquer dans la trace dans une écorce d'arbre, ils dessinent un cœur. C'est-à-dire, c'est facile à dessiner. Un cœur, déjà, est percé d'une flèche, alors qu'un cerveau percé d'une flèche, vous n'avez jamais vu ça. Et puis, vous ne savez pas comment c'est un cerveau. En réalité, moi qui fais des cours depuis 40 ou 45
ans... Une coquille de noix, vous dites.
Oui, je fais ça comme... Je dessine ça... ça n'a besoin d'aucune précision. Il suffit de voir cette forme. Ça ressemble à un cerneau de noix. Quoi.
Alors, comme vous maniez l'humour, en permanence, hein, on peut le dire, ce qui rend effectivement la lecture beaucoup plus aisée et amusante. Vous faites tout le temps un certain nombre de facéties. Je vous cite également au début de votre ouvrage, vous dites par rapport à ce chapitre descriptif, cette vue d'ensemble n'a pas la prétention d'être un cours s'adressant à des étudiants. J'ai songé un instant à le rédiger en alexandrin, mais des vers de Mirliton n'empêchent pas l'ennui. Pour ceux qui n'ont pas encore renoncé au voyage, d'autres informations vont suivre. Alors, les facéties vous sont chères, mais est-ce que vous y avez vraiment songé?
Mais il y a un endroit qui est en vers, vous ne l'avez pas trouvé encore.
Ah non, pas encore.
Mais des vers, un peu des vers de Mirliton, mais c'est pour rire. Non, mais c'est... vous savez, les grands ouvrages médicaux, il y en avait quelques-uns, comme l'ouvrage de Fracastor, qui était souvent rédigé en vers latin, bien sûr. C'est depuis le début du 19e siècle, la naissance du positivisme et du scientisme ennuyeux, mais en même temps efficace, il faut bien le dire, qu'on écrit mal, quoi. On écrit mal. Mais des gens comme les professeurs de médecine, les neurologues, des grands neurologues de la fin du 19e siècle, comme Charcot, ou des gens comme Trousseau, des grands médecins, c'était des écrivains, quelquefois de génie. Leurs leçons cliniques, c'était une vraie merveille de style, de mise en scène.
XXIe siècle.
Oh non, je suis pas un Trousseau. Si je devais être quelqu'un, ce serait plutôt un Broca. Mais Broca, c'est lui qui a découvert les localisations, le lieu de la parole, et où s'élaborer la parole. Mais grâce après à toute série de travaux et que confirme aujourd'hui la résonance magnétique nucléaire, l'IRM, on a perfectionner les travaux de Broca, mais tout ça s'est développé à partir de la découverte de Broca, bien sûr. Mais ça, j'ai remis toute l'historique qui s'inspire d'ailleurs d'un petit cours d'histoire du cerveau qu'avait fait Michel Jouvet, qui n'a pas été publié, qui m'avait communiqué, mais qui a une vision très rafraîchissante du cerveau et peu savante, quoi. Je veux dire, ça vient à la fin, mais vous voyez, je ne pouvais pas enlever l'anatomie. J'aurais pu la mettre à la fin comme j'ai mis l'histoire.
Cela dit, vous allez voir que...
Après, il faut constamment savoir où on est, quoi. Mmh. Si on est dans l'hypothalamus, il faut savoir où c'est, quand même.
Non, vous allez voir que je dis ça pour vous provoquer un petit peu, mais je vais insister un petit peu lourdement sur cette anatomie. On va y revenir tout de suite sur cette anatomie du cerveau, mais auparavant...
Vous êtes probablement une des rares lectrices de ce livre qui a regardé ce chapitre.
Eh bien justement, c'est pour encourager les autres lecteurs à le faire. Mais auparavant, on va juste marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Thank you.
Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission sur ce voyage extraordinaire au centre du cerveau avec Jean-Didier Vincent. Alors, parlons-en un peu de ce cerveau. 1500 grammes chez l'homme, un peu moins chez la femme. Évidemment, vous l'écrivez, cette différence de poids n'est pas due à une intelligence moindre, mais à une différence de taille, la femme étant plus petite et moins musclée que l'homme. Alors d'emblée, au nom de la gente féminine, merci de rétablir cette vérité. Alors 1500 grammes, mais déployé, vous l'écrivez, l'étendue du cortex représente presque 2 mètres carrés. Alors est-ce que vous pouvez nous dire, en résumé bien entendu, qu'est-ce que l'on trouve dans cet espace de la substance grise, des cellules dites gliales, je ne sais pas si la prononciation est juste,
ouais.
Des ventricules remplis d'un liquide céphalo-rachidien, ça fait beaucoup de choses.
Oui, bon, je le dis, mais je me débarrasse. Il y a juste une image de synapse, il n'y a pas la théorie du neurone, il n'y a pas
l'électrophysiologie. Ah non, mais moi, je veux vous en faire parler. Hein.
Oui, mais ce n'est pas ça dont je parle dans mon livre. Il y en a quand même très, très peu. On reste là avant d'entrer dans le voyage dans le cerveau. Ça commence plus tard. Hein. Il y a des choses, il faut quand même que je vous entraîne un peu, que je vous amène où je veux. Vous voulez à tout prix voir le cerveau parce que vous êtes un esprit rationnel. Vous voulez que je vous parle de ça. Vous êtes maintenant probablement en train de succomber à l'académisme ambiant. Et moi, je veux vous parler de choses qui sont plus atypiques et qu'on trouve dans le cerveau, qui est responsable du cerveau. J'ai consacré quand même un nombre important de pages à ce que j'appelle la météorologie psychique. Et ce qui est important, c'est à partir de ces circuits, on va y venir, alors tant mieux. Parce que je trouve que c'est autrement intéressant de savoir, bien sûr qu'il y a de la dopamine, puisque c'est la grande responsable, qu'il y a des voies dopaminergiques, c'est-à-dire des voies qui transportent de la dopamine, ou plutôt qui fabriquent de la dopamine et qui vont exciter ou libérer cette dopamine en face d'autres neurones, etc. Bien sûr, il y a des circuits, bien sûr, il y a tout ça. Mais je dirais qu'on trouve dans d'autres livres que le mien, comme celui de M. Buzer, comme celui de M. Humbert, qui sont aussi des académiciens, des renseignements plus précis, parce que ça s'adresse à des esprits plus savants, plus avertis. Moi, ma prétention, c'est de faire comprendre pourquoi nous sommes déprimés, pourquoi nous baignons quelquefois de ce qui me fascine, parce que probablement je fais partie du lot des mélancoliques, c'est-à-dire de ces sujets dont les humeurs envahissent le cerveau, qui sont en réalité des sujets qui, par tempérament, vont réagir, vont avoir un affect différent.
Vous citez d'ailleurs un certain monsieur Trochu.
Ah oui,
écrit les mémoires d'un hypocondriaque.
Oui.
Alors juste, je peux vous poser une question sur le terme d'hypocondrie, parce que d'après ce que vous écrivez dans votre ouvrage, l'hypocondrie, finalement, c'est la même chose que la dépression.
Oui, bien sûr. L'hypocondrie, c'est un mot qui a eu plusieurs sens au cours de l'évolution de la médecine de l'esprit. Au XVIIe, au XVIIIe siècle, hypocondriaque, c'est à peu près synonyme de mélancolique. Et mélancolique, à cette époque, on appelait ça le mal anglais, ce sont pratiquement tous les intellectuels, ils sont à la fois souvent un peu alcooliques, c'est des gens qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui des bipolaires, c'est-à-dire qu'ils alternent des phases de dépression et des phases de cyclone. C'est pour ça que je parle de météorologie psychique.
C'est bien que vous parliez de...
Alors, hypocondriaque, c'est un terme qui vient de l'époque hippocratique, ça s'écrit pas de la même façon, où il y avait 4 humeurs qui régissaient toutes les fonctions du corps et de l'âme. Et
Dans la fameuse bile noire, il y avait la
mélancolie, la bile noire. Et les hypocondriaques, c'est ceux dont la bile s'accumulait dans ce qu'on appelle les hypochondres, c'est-à-dire les gens qui sont sous les poumons, avec d'un côté la rate. Alors, on rit comme un dératé, il y a des expressions qui sont restées. La rate, c'était l'endroit où se concentrait l'atrabile, et puis donc c'était l'hypocondrie. Parce que ça s'était localisé un peu au niveau du corps. Et puis après, les vapeurs montaient au cerveau et étaient responsables de ces états d'humeur si graves que quelquefois, elles poussaient le sujet à se suicider. Mais il y avait ce mélange d'excitation qui apparaissait quelquefois de folie créatrice presque. Les grands poètes étaient souvent des mélancoliques avec des phases de création, comme Gérard de Nerval, comme bien d'autres poètes, Shelley, Byron étaient tous ces grands poètes romantiques étaient en même temps des grands mélancoliques. Et moi, je suis souvent l'exemple de Boswell, j'ai écrit un livre un peu sur lui, qui est un immense mélancolique, qui a écrit le journal d'un hypocondriaque et qui va traverser des phases de grande dépression. Et puis des phases d'excitation, alors... comme le climat en fin de compte, comme la météo.
Oui, c'est ce que vous expliquez, vous faites souvent des analogies avec la mer qui est déchaînée par la tempête.
Voilà.
Vous expliquez d'ailleurs qu'on ne va pas chercher les causes au bon endroit, et que là où on voit la houle sur la mer et qu'on en rend responsable la météorologie, le vent par exemple ou la tempête, il faut plutôt voir la question de la rotation de la Terre.
Oui, la rotation de la Terre et puis le fond surtout, les fonds marins. Qui sont responsables finalement de ce qui se passe à la surface. Donc, votre humeur n'est que la traduction de toute une chimie qui va se dérouler là dans ces grandes rivières souterraines, qu'on retrouve chez Dostoïevski aussi, vous voyez, qui, quand il écrit les bas-fonds, parle de ce qui se passe dans ces bas-fonds de l'âme humaine, c'est-à-dire là où sont charriées les humeurs, où prennent naissance les émotions, et où il y a surtout, prend naissance, ce qui me paraît être le moteur essentiel de l'action humaine, c'est-à-dire le désir qui est lui-même soumis à l'empire de la souffrance, des affects, souffrance ou du plaisir, qui sont en quelque sorte entremêlés l'un à l'autre et qui tirent chacun de leur côté pour conditionner ce qu'on appelle le désir.
Et c'est seulement donc depuis le 19e qu'on parle du terme de dépression ou...
Le terme de dépression est relativement plus récent. Au 19e siècle, progressivement, on parle de folie hypochondriaque, puis après de mélancolie qui redevient à la mode chez les psychiatres, mais on commence après, chez Kaplan, à parler de dépression. La dépression est au fond du 19e siècle.
Lui, il a fait justement, c'est un psychiatre allemand qui a fait une nomenclature, voilà.
La folie circulaire.
Voilà, j'ai vu que le trouble, ce qu'on appelle aujourd'hui avec pudeur les troubles bipolaires, il parlait de folie maniaco-dépressive.
Alors, ça, c'est devenu la. Alors après, il y aura la manie qui est le pôle opposé à la dépression, c'est qui est donc l'accès mélancolique, les deux étant souvent couplés sous forme de maladie maniaco-dépressive qu'on appelle aujourd'hui bipolaire. Et tout en sachant que ce qui est le plus fréquent, c'est souvent des états mixtes chez les grands mélancoliques qui sont en même temps hyper, quelquefois délirants, quelquefois très, très agités et qui ont souvent des éléments maniaques, c'est-à-dire des éléments d'excitation qui viennent se mêler à la dépression et qui fait que tout d'un coup, comme un éclat de tonnerre, le sujet passe à l'acte et peut se suicider. C'est pour ça que aujourd'hui, on les soigne avec des régulateurs de l'humeur et pas avec des antidépresseurs, ce genre de malades. Il faut faire très attention. On commence à comprendre maintenant, justement, c'est presque l'étude de la mécanique des fluides dans le cerveau qui conduit à opposer différents types de dépression. Parce que dépression égale antidépresseur, ce serait trop facile. Il y a d'abord beaucoup d'antidépresseurs, il faut savoir les choisir. Et ensuite, il y a surtout maintenant, pour de nouveaux qui sont psychotropes, qui ne sont pas des antidépresseurs, qui étaient utilisés souvent sans qu'on le sache vraiment leur mode d'action, comme le lithium ou comme des électrochocs, comme certaines molécules, qui sont des régulateurs de l'humeur. Et il y a ce grand concept d'humeur qui est le même mot qu'on utilisait chez les Grecs pour désigner ces états affectifs de chute dans la relation au monde. Enfin,
vous y revenez souvent sur cet état central fluctuant.
Dans cet état central fluctuant s'exprime notamment toujours par des humeurs quelquefois dépressives ou humeurs excessives.
Et vous parlez justement dans ce cadre d'état dépressif auquel on ne peut temporairement rien faire soi-même. Vous dites que le sujet a une hyper-conscience de son état. C'est ce qui peut le pousser à l'acte.
Bien sûr. Parce qu'il y a la culpabilité et tout d'un coup, il va se suicider. Il a envie de mourir, mais c'est une impulsion, c'est un déchaînement de la pulsion de mort, pour parler comme Freud. C'est une sorte de... Un maniaque ordinaire, il y a la fuite des idées, l'accélération de la pensée, il va enlever ses vêtements, il a trop chaud, il va faire des folies, il va vider un compte en banque, et après il va dépenser plus d'argent qu'il n'en a, il achète des châteaux, il achète des bateaux, il tente des choses impossibles.
Il se fait peut-être arrêter un peu avant.
Avant, oui, comme ma bonne sœur, là, qui circulait... sur un vélo.
Vous expliquez que justement, c'est assez surprenant parce que vous dites que vous vous êtes retrouvé un jour dans un milieu clinique face à une bonne sœur qui était. Qui est arrivée toute nue et qui chantait des cantiques à la gloire de Dieu. Voilà.
Voilà. Puis, là, on lui a fait quelques électrochocs et quand elle est sortie, elle était amnésique, elle se demandait, mais il lui restait quand même. On lui a décrit un peu ce qu'elle avait fait.
Vous dites que c'est dur de rester. de ne pas rire face à une telle situation.
Ah oui, c'est très, très dur.
Est-ce que vous ne croyez pas qu'on peut vous le reprocher ?
Le maniaque cherche à faire rire, il cherche à trouver l'attention de l'autre, il est toujours à faire des mots d'esprit.
Oui, mais la sœur qui vient...
Ah ben, la bonne sœur, c'était maniaque. Hein, c'est quand même les maniaques sont quelquefois drôles, mais pas pour un psychiatre. Et ensuite, quand on fréquente un maniaque, quand on a un dans sa famille, quand vous avez des parents ou des enfants, enfin, que vous avez dans une famille un bipolaire, un maniaco-dépressif, c'est très difficile à vivre pour les autres. Très, très difficile, aussi bien dans la phase maniaque que dans la phase dépressive. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des remèdes, mais si on devait donner des antidépresseurs à tous les gens dans la rue qui, ce matin, se sont levés de mauvaise humeur et traînent leur spleen, vous savez, spleen, ça veut dire rate en anglais, vous voyez d'où vient le mot, ça revient encore toujours des histoires de rate et d'humeur.
On en parle dans Shakespeare.
Le fameux spleen de Paris aussi, de Baudelaire, et puis c'est vrai que ce terme-là va être très à la mode à un moment donné. C'est un peu des mots comme ça dont on connaît mal l'origine, comme le stress, que tout le monde utilise aujourd'hui sans savoir exactement ce que ça veut dire.
Alors, il y a quelque chose qui m'a un peu interpellée, c'est qu'au début de votre ouvrage, vous écrivez « Mieux connaître votre cerveau vous permettra de mieux vous connaître et d'apprendre à mieux gérer les relations de votre corps avec votre tête. Ce livre a pour vocation d'aider ceux qui souffrent. » Et vous précisez même, en citant Auguste Forel, « Connaître son cerveau pour respecter les règles d'hygiène, c'est le devoir de chacun à l'égard de son âme. » Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il est dangereux de trop en savoir? Un peu comme dans les films d'espionnage, si vous me permettez cette comparaison. Est-ce qu'on risque pas chez les malades, a fortiori ceux dont l'âme est malade, de créer des comportements hypochondriaques au sens contemporain du terme, ou simplement des craintes inutiles?
Oui, c'est pour ça que la présence, en tout traitement d'une dépression, maladie psychiatrique, la présence du médecin, ou du thérapeute, si on veut élargir le cercle des soignants, est indispensable. On ne peut pas laisser un malade se soigner tout seul, sauf lorsqu'il a pris une habitude de son affection et qu'il sait voir venir la phase dépressive, il peut se corriger lui-même, etc. Mais ce serait contraire à toute vocation médicale que de laisser l'esprit même de la médecine, que de laisser un dépressif livré à lui-même quand il demande de l'aide.
J'avoue qu'on imagine assez peu... Personnellement, je l'ignorais. On parle surtout des maux de l'âme, mais on imagine assez peu que ça a des conséquences assez énormes sur l'anatomie cérébrale. Enfin, moi, j'ai été très surprise. D'ailleurs, je trouvais ça assez effrayant, j'avoue.
L'admiration, la neurogénèse.
Ben oui, sur le plan histologique, vous parlez d'une réduction de la taille des neurones, une prolifération des cellules gliales, une destruction des gaines de myéline autour des prolongements neuronaux et des signes de destruction cellulaire. C'est effrayant.
Il y a identité entre... Ah, mes cerveaux, vous avez mis le doigt sur ma problématique. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on appelle l'âme? C'est un mot qui désigne quelque chose qui n'a pas de localisation. Quand je dis l'âme, c'est le cerveau, c'est faux. L'âme, c'est une expression. C'est l'expression de la subjectivité, du sujet souffrant, du sujet jouissant, du sujet dans sa relation notamment, et c'est ça. Presque tout ce livre est construit pour en arriver là, dans sa relation à l'autre. Cette relation à l'autre qui est essentiellement fondée sur un échange d'affects entre l'un et l'autre. Et c'est la présence de l'autre qui permet à l'un de s'affirmer comme l'un, c'est-à-dire comme l'unique, celui que je suis, moi. Et c'est celui-là qui souffre. Alors quand je dis que c'est l'âme qui souffre, c'est le sujet qui souffre. C'est le corps du sujet et c'est l'expression de la souffrance de ce sujet par l'intermédiaire de son cerveau.
Alors, si une personne, par exemple, qui souffre d'une dépression vient à savoir que, en plus, son anatomie cérébrale est modifiée, alors, sachant que c'est quelque chose qui est peu divulgué, dont on parle peu, vous pensez pas que la personne risque d'être effrayée en disant, mince, j'ai l'âme malade, enfin, parce que justement,
non, ça a des avantages et des inconvénients. Ça veut dire que ça contribue à banaliser le concept d'âme, loin de vous renvoyer vers une spiritualité ou un dualisme cartésien, contre lequel je rentre en guerre, parce que en réalité, on a fait le parangon du dualisme, c'est-à-dire l'âme séparée du corps de Descartes. En réalité, Descartes, il a magnifiquement décrit les passions de l'âme, tout en représentant que ces passions se déroulent dans le corps et dans son cerveau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a accroché l'âme, comme on accroche son chapeau à un porte-manteau, à l'épiphyse, qui est une espèce de petite formation qui est médiane, qui est comme un paratonnerre sur le cerveau. Autrement dit, il s'en moque de l'âme. C'est pour se concilier les bonnes grâces de la religion. Donc c'est un dualisme technique, c'est pas un dualisme profond.
Mais c'est vrai ce que vous disiez au départ, on se rend compte que quand on touche au cerveau, c'est pas comme quand on touche au cœur ou au bras. Quelqu'un qui a des troubles de l'humeur et qui va avoir des manifestations somatiques, par exemple au niveau digestif, ça ne va pas l'effrayer plus que ça. Je pense que si vous expliquez à quelqu'un que sa dépression suscite un changement de l'anatomie du cerveau...
D'un autre côté, vous savez bien que quand vous avez mal quelque part, on n'a pas besoin de parler de psychosomatique. Là encore, c'est un mot dualiste, psychosomatique. De toute façon, votre cerveau y participe, vous comprenez. C'est pas pour rien que vous allez avoir cette peur de la mort qui va vous tenailler bonne partie de votre existence. Quelquefois, ça accompagne d'une souffrance de votre côlon. Ça n'a pas une valeur symbolique. C'est-à-dire que tout votre cerveau qui s'exprime par ses nerfs du système végétatif va souffrir avec le corps du sujet. Et là où ça fait mal, c'est-à-dire dans le côlon, dans l'intestin, dans le cœur, etc., dire pourquoi à un moment donné, quand vous avez vraiment une souffrance dans votre relation au monde, aux autres, que vous avez un chagrin d'amour, que vous êtes en mauvaise position, que vous êtes stressé, ces agressions que vous font subir l'environnement, pourquoi tout d'un coup vous allez retrouver avec une colopathie, pourquoi vous allez faire une maladie à un moment donné, pourquoi vous ferez une chute de votre défense immunitaire à ce moment-là, pourquoi à la limite même vous allez développer un cancer en réaction à telle chose. C'est pas psychosomatique, c'est simplement que le corps et le cerveau forment
tout.
C'est la chair. Moi, je préfère parler de la chair. Et alors, quand vous expliquez à quelqu'un que ce dont il souffre, c'est une maladie de l'âme, c'est une image, c'est une métaphore. La relation qui s'établit entre le médecin et son malade, elle ne peut être que métaphorique. On ne peut pas lui faire un cours d'anatomie chaque fois. Alors, lui faire toucher du doigt, si je puis dire, le fait qu'il sache que c'est vrai que le cerveau, il n'y a pas que les maladies neurologiques, il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer qui fait des trous dedans, ou la maladie de Parkinson, même les dépressions qui paraissent comme ça toucher l'esprit, l'âme, quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le cerveau, en réalité, le cerveau, il en prend un coup, parce qu'il est là. Il n'est pas le témoin impassible.
Vous posez une question intéressante, quelque peu polémique. Vous n'y répondez pas, du moins dans cette partie de l'ouvrage. Vous vous demandez si ces troubles majeurs de l'humeur, je vous cite, est-ce qu'ils interviennent dans les mécanismes adaptatifs et de résistance aux facteurs pathogènes de l'espace extracorporel ou sont-ils l'expression d'une vulnérabilité d'origine génétique au désordre de l'humeur? Vous parlez également de cicatrices du passé. Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on pose beaucoup.
Oui, mais c'est un cancer à plusieurs voies. Vous avez les gènes.
Mais est-ce, prédisposition génétique aux troubles de l'humeur?
Nous avons une prédisposition génétique à tout. Nous avons même une prédisposition génétique qui nous permet de parler. Parce que si nous n'avions pas un génome humain, nous serions incapables d'apprendre à parler. Mais il faut quand même que ce soit en écoutant les autres parler que le bébé il va apprendre à parler.
Ça
aussi.
Veut dire que le patrimoine génétique peut rendre quelqu'un plus susceptible de victime de troubles de l'humeur?
Bien sûr, dans tous les dépressifs, presque toutes les formes de dépression, même celles qui sont réactionnelles, on trouve ce qu'on appelle un terrain. Là encore, c'est une notion très ancienne qui va permettre, par la conjonction de divers événements extérieurs ou interventions au niveau du corps, de déclencher une maladie. C'est pour ça que dans l'autisme, par exemple, qui est une maladie terrible, eh bien, l'autisme, il a la conséquence de prédisposition génétique, mais qui n'est pas une fatalité génétique s'il n'y a pas un certain nombre de facteurs déclenchants qui vont favoriser l'éclosion. Mais quelquefois aussi, ce sera purement au niveau génétique, quand il y a coexistence d'un certain nombre dans les réseaux de gènes qui peuvent induire soit la schizophrénie, soit l'autisme des âges variables. À ce moment-là, c'est une maladie qui peut être considérée comme une maladie génétique. Mais il est évident que ça ne dédouane pas le milieu et qu'il y a toujours ce qu'on appelle l'épigénèse en jargon, qui est là pour être responsable des choses. C'est pour ça que j'ai introduit dans tous mes raisonnements la notion de durée et de temps comme troisième dimension d'état central fluctuant. Vous traînez le génome, mais votre génome, c'est aussi le génome du singe. Vous voyez, il y a très peu de différence avec le génome de l'humain. Il y a quelques parties qui fonctionnent en réseau, qui vont être quelques gènes qui vont conditionner l'apparition du langage, les choses comme ça. Et le développement surtout du cortex, il fait un tiers de plus que celui d'un bonobo ou même de Homo erectus, même beaucoup plus. Et à côté de ça, il n'y a pas de grosse différence au niveau des gènes. Donc tout ça, c'est d'une complexité d'interaction qu'il faut bien que je simplifie un peu pour me faire comprendre.
Vous avez des chapitres dédiés à différentes actions nécessaires, comme manger, boire, mourir
ça,
de soif.
Ça, c'est dans l'hypothalamus.
Pourquoi mourir de soif ?
Bah, mourir de soif, c'est
parce
quand
que
vous n'avez rien
ça,
à boire.
Ça génère certaines réactions cérébrales.
Non, mais parce que j'ai joué sur les mots. Boire, manger, ce sont deux comportements régulateurs. C'est quand on manque de sucre dans le corps, de matériel énergétique, on mange pour réparer. Et quand on fait rentrer autant d'énergie qu'il en sort par nos actes, on est équilibré, on prend pas de poids. Nous, vous avez vu qu'il y a une intervention de Gérard Slama sur l'obésité qui est assez longue parce que c'est un problème probablement de la pathologie du 21e siècle, parce que l'obésité, ça introduit le diabète. Alors, le diabète, on en meurt et on fait des complications cardiaques. C'est pas par gratuité. Donc, je parle de l'obésité, c'est bien parce que l'obésité, elle prend naissance dans le cerveau. Avec toutes ces hormones...
Les hormones jouent un rôle très important.
Bah, évidemment. Mais
c'est le rôle majeur.
Il faut savoir que les cellules graisseuses sont des glandes. Elle sécrète des hormones, la plus connue la leptine, qui va freiner le comportement alimentaire, donc permettre à l'individu, quand il a trop de graisse, il va moins manger. Et la satiété va se déclencher plus vite. Alors, je vous montre bien comment, dans ce que j'appelle l'hypothalamus restaurant, il y a des signaux qui enclenchent la faim, d'autres qui la coupent, ce qu'on appelle la satiété.
Alors, l'hypothalamus, c'est le siège du plaisir dans le cerveau, des souffrances.
Le plaisir traverse l'hypothalamus, mais c'est des aires plus importantes. Non, dans l'hypothalamus, vous avez la sexualité, vous avez l'éveil, vous avez le sommeil, vous avez le comportement alimentaire, vous avez la régulation du poids, la régulation de la température. On se bouscule au portillon. Alors, j'essaye de mettre tout ça en forme pour montrer comment les graisses peuvent sécréter des hormones qui, bon, par exemple, c'est parce qu'elles sont un petit peu trop grosses que les jeunes filles aujourd'hui, les fillettes plutôt, ont une puberté plus précoce parce que la leptine, qui est sécrétée par leur surcharge en graisse, va déclencher une autre hormone qui, elle-même, va déclencher la sexualité adulte.
D'accord. Alors là, c'est vrai qu'on aborde la question de l'alimentaire, du fait de manger et de boire très, très succinctement, parce que malheureusement, on ne peut pas rentrer.
On est resté dans les bas-fonds, parce que je voudrais préciser pour ceux qui voudraient voir ce livre, c'est que, évidemment, on va quitter un peu tout ça. Bien sûr, il y a l'alcoolisme, bien sûr, il y a l'addiction, parce que l'addiction, c'est malheureusement la face noire du plaisir, hein, qui vous rend dépendant soit d'une drogue, soit d'un comportement, etc. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'addiction. J'essaye d'expliquer comment justement les chemins du plaisir, c'est aussi les chemins de la dépendance. Il y a les émotions comme l'anxiété, ces choses-là qui vont être expliquées par une approche plus réductionniste qui est là valable de réflexes conditionnés. Quand vous avez eu peur à telle ou telle circonstance, après vous répondez à ce qui vous a fait peur de façon automatique, quasiment comme un réflexe. Et puis après, il y a le salon des beaux-arts où on voit un peu comment le cerveau peut jouir esthétiquement.
L'art joue un rôle très important dans votre vie.
Oui, bien sûr. Et puis, alors, j'attire l'attention du futur lecteur sur le fait que moi, je me débarrasse des parties un peu techniques et dures. J'ai demandé à une quinzaine de spécialistes qui sont soit mes amis, soit mes élèves, soit les deux, à la fois.
Professeur Agide intervient plusieurs fois,
qui est un très vieil ami et qui est probablement, ça ne vexera pas qu'on fasse un palmarès, un des plus grands neurologues en France. Et alors lui va vous traiter les mouvements anormaux, va vous traiter la maladie de Parkinson, M. Slama pour l'obésité.
Ils ont accepté facilement de collaborer.
Oui, ils l'ont fait de façon absolument désintéressée, par amitié. Et ils viennent, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de lire ce que j'appelle les focus, mais ça n'interrompt pas le cours. Mais après, moi je suis plutôt spécialiste de l'esthétique au niveau de visuel, mais il y a Le cerveau et la musique, qui a été écrit par Mulders, qui est un grand neurobiologiste belge. Puis il y a Dubois sur la mémoire. Je ne vais pas interrompre le fil de mon discours en vous parlant de la maladie d'Alzheimer, mais aujourd'hui, quand on pense cerveau, on pense Alzheimer. Donc, il y a Jean-Marc Orgogozo, qui est aussi un grand neurologue, qui a fait un focus pour que tout le monde soit informé.
Il y a énormément d'encadrés, et c'est très précis. Alors moi, effectivement, j'ai fait le choix de me focaliser sur certains éléments, parce qu'aussi je veux montrer à l'auditeur qu'il peut retrouver plein de choses dans votre ouvrage qui est effectivement très complet. Moi, je me demandais si vous deviez choisir, alors la question va vous paraître difficile ou incongrue, mais vous dressez une compilation de savoir autour du cerveau qui ressemble un peu, même si vous avez dit l'inverse au départ, à un voyage organisé, dans le sens où vous parlez des besoins essentiels dans leur vision cérébrale, boire, manger, dormir, même mourir de soif, on l'a dit.
C'était comme une valse, manger, boire et dormir, une valse à trois temps.
Et ensuite, vous traversez des zones de plaisir, des fonctions aussi essentielles que la mémoire, le langage, sans oublier naturellement à la mort cérébrale. Alors vous qui mettez la littérature, quelle serait votre Madeleine de Proust, l'aspect qui retiendrait le plus votre intérêt si vous deviez choisir l'un de vos 18 chapitres?
Oh, c'est une colle, ça. Je crois que tout se tient, hein. Mais évidemment, je prendrai le chapitre fondamental parce qu'il explique un peu tout le reste. C'est manger, boire et dormir. C'est-à-dire.
Ah, c'est trois chapitres, là.
Oui, mais ça n'est un. Je l'ai coupé en trois. Mais en fait, tout ça est intriqué parce qu'on revient toujours sur les mêmes lieux. Ils se touchent, ils sont au même endroit. Quelquefois, ils sont superposés. Quelquefois, c'est les mêmes lieux. Et puis, de là, ils nous ramènent la devanture. J'appelle ça l'hypothalamus restaurant, c'est-à-dire l'olfaction, le goût. Il y a des recettes de cuisine. Pour la mémoire, il y a la recette de la Madeleine de Proust. Donc, j'ai travaillé avec un chef, j'ai fait des livres de gastronomie, autrefois des livres de l'art de parler la bouche pleine, enfin ça fait partie de mon œuvre collatérale. Donc, si vous voulez, c'est le chapitre le plus complet où on apprend à déguster le vin, où on apprend à manger peut-être, finalement, où on apprend qu'est-ce qui se passe dans l'olfaction quand on goûte le vin, mais quand on goûte les aliments, comment le goût se mélange avec l'odorat, ses différents sens, comment cette alchimie du goût, j'essaye de la traduire parce que c'est passionnant à visiter. Et puis, chaque fois, j'introduis l'élément noir un peu. C'est vrai que manger, c'est un plaisir, mais être obèse, ça n'est pas un. C'est vrai que boire, c'est
plaisir
un plaisir.
Et souffrance,
vous voyez, quand vous dites boire, c'est de la physiologie. Ah oui, c'est couplé. Mais quand vous dites, mais c'est même sur la distance, quand vous dites boire, c'est effectivement une fonction d'organisme. Si on ne boit pas, on meurt de soif. On meurt déshydraté et c'est grave. On peut rester sans boire peut-être à la limite une semaine. Vous savez, les gens qui font la grève de la faim, ils continuent toujours à boire, parce que c'est terrible, là, c'est une torture effroyable. Mais donc, boire, c'est une fonction naturelle, mais il y a aussi, quand on dit « il boit », bien sûr, nous buvons tous, mais quand on dit « il boit », ça veut dire qu'il est alcoolique. Et alors, j'ai consacré à l'alcoolisme un chapitre que je trouve un peu lyrique, parce qu'il me rappelle un peu Malcolm Lowry, avec le narcotique, et puis il se passe un peu à New York, aux côtés de ce centre de désintoxication que j'ai connu, l'hôpital Bellevue à New York, où Malcolm Lowry a subi sa dernière cure de désintoxication, et c'est magnifiquement décrit. Donc, chaque fois que je peux avoir recours à un écrivain, je m'en sers pour essayer de lui passer la parole, parce que c'est quand même les écrivains de génie surtout, qui sont les meilleurs témoins de ce que peut être le cerveau.
Alors, vous les citez d'ailleurs énormément. Votre parcours, vos ouvrages, ça me fait penser un peu, c'est une analogie qu'on m'a faite à votre sujet. J'espère que vous en serez flatté. À Céline.
Bah, ça commence par les exergues, c'est voyager, ça fait travailler l'imagination. Voilà. Enfin, c'est le début du voyage
Céline,
au bout de la nuit.
Céline, médecin et écrivain.
Céline, oui. Oh, je voudrais avoir un huitième de son talent. Je n'ai pas choisi cette voie, justement, parce que je crois que Céline était... On a beaucoup d'écrivains, il y a encore quelques années, cherché à imiter Céline. Céline est inimitable. Et c'est même pas... Il vous donne pas une leçon d'écriture. Proust non plus, d'ailleurs, les très grands ne vous apprennent rien, ils continuent de vous éblouir. Mais si vous fréquentez les écrivains du XVIIIe siècle ou les écrivains du XIXe siècle, où la langue française est à son sommet, c'est un vrai plaisir et ça vous aide. Et puis en plus, c'est des observateurs de l'âme humaine. Je crois que dans Balzac, vous avez de quoi faire un voyage au centre du cerveau rien qu'avec du Balzac. Et pourtant, il est un peu négligé dans mon livre parce que peut-être j'ai voulu éviter la facilité.
Puis on ne peut pas non plus tout aborder.
On ne peut pas mettre une bibliothèque dans un livre.
C'est un peu comme dans cette émission, on a dû faire des choix. J'espère qu'on aura donné envie aux lecteurs de se procurer cet ouvrage. Alors, cette émission touche à sa fin. Pour découvrir un peu plus notre invité, je vous invite à réécouter l'émission En habit vert que Canal Academy a consacrée au parcours de Jean-Didier Vincent. Vous la trouverez bien entendu en libre téléchargement dans notre médiathèque. Vous pourrez également y retrouver le colloque intitulé Mémoire et mélancolie par Jean-Didier Vincent et Paul Vert, ainsi que la séance de l'Académie des sciences présidée par notre invité sur le thème goût et olfaction au printemps 2006. Et bien évidemment, pour poursuivre cette aventure en terre inconnue à travers les dédales du cerveau humain, je vous recommande vivement la lecture de ce voyage extraordinaire au centre du cerveau.
Merci de ces paroles si aimables et si charmantes.